Et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h. Le journal Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour. La police espagnole sur les traces de deux hommes après les attentats de Barcelone et Cambrils. Un Marocain de 22 ans, possiblement le conducteur de la camionnette qui a tué 14 personnes sur les Ramblas. Et un imam marocain de 45 ans. Dans ce journal, reportage à la mosquée de Ripoll, la petite ville des Pyrénées d'où étaient originaires les membres de la cellule terroriste. Ses gags, grimaces et son humour absurde en avaient fait le roi de la comédie américaine des années 60. L'acteur-réalisateur Jerry Lewis s'est éteint hier à l'âge de 91 ans. Neymar en majesté au Parc des Princes. Le PSG a battu sèchement Toulouse 6-2 hier soir. Paris prend la tête de la Ligue 1. Reportage dans ce journal avec les fans du prodige brésilien, auteur d'un joli doublé. 120 battements par minute, c'est le coup de cœur de la rédaction de France Inter après avoir bouleversé Cannes. Le film qui retrace l'histoire d'ACT UP dans les années 90 sort mercredi sur les écrans. On y revient avec vos invités, Nicolas.
Oui, on reçoit le réalisateur du film, Robin Campillo. Il sera accompagné d'Elisabeth Lebovici, historienne et critique d'art, auteur de Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle. Rendez-vous donc à 8h20 et vos appels au 01 45 24 7000.
France Inter. Trois jours après les attentats de Barcelone et Cambrils, 12 des 14 personnes tuées ont été formellement identifiées. 10 personnes grièvement blessées sont toujours entre la vie et la mort. Du côté de l'enquête, les autorités espagnoles sont en la recherche de deux hommes. Un Marocain de 22 ans qui pourrait être le conducteur de la camionnette qui a fait 13 morts à Barcelone. Et un imam marocain également de 45 ans. La dizaine de membres de la cellule responsable des attaques étaient originaires de la même ville, Ripoll. 11 000 habitants au pied des Pyrénées à 2 heures de Barcelone. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter en Catalogne, vous avez pu entrer dans la mosquée de Ripoll, là où officiait il y a encore 2 mois l'imam, aujourd'hui recherché par les autorités.
C'est un petit local d'une centaine de mètres carrés dans une ruelle du quartier de la gare, sur un tableau accroché au mur, 96 noms de fidèles à jour de leur cotisation mensuelle, dont ceux de 2 des terroristes présumés, Mohamed Hichami, mort jeudi soir à Cambrils, et l'homme le plus recherché d'Espagne. Les autorités soupçonnent Younes Abou Yacoub. Ali Yassine est le président de la communauté musulmane de Ripoll.
Ces jeunes ne venaient pas prier ici. S'ils étaient venus voir ce qu'était vraiment l'islam, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Nous sommes surpris. C'est un coup de massue. Je n'y crois toujours pas. Ce qui s'est passé, nous, les musulmans, nous ne l'aurions pas fait. Ce sont les radicaux, des gens qui ne connaissent rien à l'islam. Ce sont des lâches.
Des lâches ou des esprits manipulés que connaît très bien Amina. Elle est espagnole musulmane et vit depuis toujours à Ripoll.
Ahmed, Omar, Saïd, tous sont d'ici, de Ripoll. Ce sont des enfants que tout le monde connaît. Je n'arrive pas à comprendre. L'un d'entre eux cherchait du travail, un autre allait à l'université, un troisième avait son travail, une voiture, son argent. Mais pourquoi ? Ils ont changé du jour au lendemain. Les familles sont en train d'halluciner.
La mère de 2 des terroristes présumés, Moussa et Drissou Kabir, s'est confiée à Amina. Elle a eu des mots très durs pour ses 2 fils, affirmant qu'elle aurait préféré qu'ils meurent avant de commettre l'irréparable.
Merci Thibault Lefebvre avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Et puis j'ajoute que selon le journal Le Parisien, l'Audi A3 utilisé par les terroristes à Cambrils jeudi soir a été flashé pour excès de vitesse en région parisienne moins d'une semaine avant l'attaque. Mais aucune connexion logistique n'est établie avec la France à ce jour, précise le journal citant des sources proches de l'enquête. Hier, une messe en mémoire des victimes a rassemblé 2000 personnes à la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone. En présence du roi et de la reine d'Espagne, du premier ministre Mariano Rajoy et du président de la Catalogne, une image d'unité affichée qui cache mal les tensions palpables entre Madrid et les indépendantistes catalans, y compris sur le terrain de l'enquête policière à Barcelone. Camille Magnard.
Bien sûr, il y a eu la photo inimaginable il y a encore peu, l'union vendredi autour du roi Felipe VI, du président de Catalogne, Carles Puigdemont, et du premier ministre espagnol, Mariano Rajoy. Ces deux-là, avant les attentats, ne se parlaient plus, ou alors, pour s'insulter, le second reprochant au premier de vouloir organiser un référendum d'indépendance le 1er octobre. L'urgence terroriste les a donc réunis un temps, mais au final, les éloigne encore, car dans l'enquête sur les auteurs des attentats, chacun joue de ses services. Les pouvoirs de police judiciaire sont entre les mains des enquêteurs catalans, mais tous les aspects antiterroristes relèvent, eux, de Madrid. Alors depuis trois jours, les fuites contradictoires se multiplient dans la presse, les policiers sur le terrain collaborent bien sûr, mais leurs chefs politiques s'affrontent en coulisses, tout en louant devant les caméras la très efficace coordination de leurs équipes. Mais le sentiment indépendantiste a surtout joué dans la décision de ne pas relever le niveau d'alerte antiterroriste en Espagne. Ça aurait voulu dire déployer des soldats de l'armée espagnole dans les rues de Barcelone, une provocation que même Mariano Rajoy a jugé bon d'éviter.
10 marins sont portés disparus au large de Singapour après une collision entre un navire de guerre américain et un pétrolier. 5 marins ont été blessés dans le choc. Ils ont été élitreillés. Des opérations de recherche sont en cours. C'est parti pour les manœuvres militaires communes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Comme chaque année depuis 1976, des dizaines de milliers de soldats participent à cet exercice prévu pour 2 semaines en Corée du Sud. Dans un contexte particulièrement tendu cette année, après le test par la Corée du Nord de 2 missiles balistiques intercontinentaux, puis les propos incendiaires de Donald Trump, peut-on craindre une réaction du régime nord-coréen à ces manœuvres militaires? Écoutez les explications plutôt rassurantes de Juliette Morillo, spécialiste des deux Corées.
On a affaire en fait à un bras de fer entre deux égaux qui utilisent une guerre de mots pour l'instant, et je pense que cette guerre ne va pas déraper. L'un et l'autre ne doit pas perdre la face. Je pense qu'il y a de toutes les façons des négociations en coulisses qui verraient les États-Unis renoncer momentanément à une partie de leur manœuvre militaire conjointe avec la Corée du Sud, ou tout du moins le survol de la péninsule par leurs avions B-1B, et en contrepartie, la Corée du Nord renoncerait à envoyer des missiles balistiques au-dessus de la Corée et du Japon, visant éventuellement Guam. Cet arsenal, ça lui permet d'assurer sa propre survie. Cet arsenal est purement dissuasif et la Corée du Nord n'a jamais eu l'intention d'attaquer les États-Unis. Ça lui permet d'obtenir un dialogue d'égal à égal avec les États-Unis. Et puis, finalement, quand on regarde ça de façon un petit peu cyniquement, c'est vrai qu'ils ont les exemple d'autres pays comme l'Irak qui ont disparu face aux États-Unis. Donc la Corée du Nord en a tiré les leçons.
Juliette Morillo au micro de Philippe Reltien.
France Inter 8h07, Corinne, c'était un génie comique, Jerry Lewis, clown, acteur, réalisateur. C'est éteint hier à l'âge de 91 ans chez lui à Las Vegas.
Oui, après ses débuts sur scène, notamment en duo avec le crooner Dean Martin, sa carrière d'école au cinéma comme comédien puis réalisateur, on se souvient du Tombeur de ces dames ou de Dr. Jerry et Mr. Love en 1963, souvent méprisé aux États-Unis qui ne voyaient en lui qu'un comique idiot. Jerry Lewis était très aimé en France, y compris des cinéphiles. Il a inspiré beaucoup d'acteurs. Ce matin, Pierre Richard, Jim Carrey notamment, lui rendent hommage. Son art était celui du clown dans toute sa gamme. Jacqueline Pétrose.
Il avait gardé du burlesque de Chaplin, de Keaton ou de Laurel et Hardy, les chutes et les portes qui se referment sur les doigts. Mais Jerry Lewis avait ajouté l'exubérance des mimiques et le fantasque, jonglant avec les postiches et les extrêmes. Le comédien Rufus aimait ses excès.
Il était un mode d'acteur qui exagérait. Quand il prenait un coup, il exagérait le coup. Il lui prenait une petite porte dans la figure et ça devenait un portail. J'adorais son exagération. Voilà. Moi, ce qui m'a le plus plu dans ses films, c'est quand il jouait Dr. Jerry, Mr. Love. C'est-à-dire, il avait les deux opposés d'un personnage. Alors, je ne sais pas si dans la vie, il était comme ça.
Cette outrance chez Lewis était toujours liée à une forme de naïveté. Son art, essentiellement visuel, en faisait un grand clown. Laurent Delmas, critique de cinéma.
Il y avait chez Lewis cette espèce de pureté clownesque qui mêle à la fois l'extrême dinguerie et l'extrême poésie. Et c'était donc, par définition, le clown parfait.
Jerry Lewis était un amuseur génial avant tout, cherchant toujours à faire rire, comme en 65, dans l'émission Panorama, quand on lui demande s'il parle français.
Oui, Tour Eiffel. Dans la croix, quand on saute de roue, déjà la 4-5, rêve la piotte, celui du bois. Comment ? Ça va ?
Black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well.
those icy.
Jerry Lewis en français, puis en anglais avec sa belle voix de crooner dans Dr. Jerry et Mr. Love. En France, c'est une semaine décisive qui commence pour la réforme du Code du travail dès demain mardi. La ministre Muriel Pénicaud reprend les discussions avec les partenaires sociaux puis avec le MEDEF. Ultime concertation sur les ordonnances qui doivent être présentées officiellement par le gouvernement le 31 août. Pour eux aussi, c'est presque l'heure de la rentrée. Les partis politiques organisent leurs traditionnelles universités et autres journées d'été cette semaine. La France insoumise ouvre le bal mercredi à Marseille, suivi des Verts et du PC. Mais les grands raouts n'ont plus vraiment la cote. Le Front National a renoncé faute d'argent. Le PS s'en tient à un séminaire de sa direction jeudi. Et chez les Républicains, le traditionnel campus des jeunes Républicains se tiendra bien au Touquet le week-end prochain. Mais la rentrée se fera en ordre dispersé façon puzzle. Audrey Morellato.
Les militants LR ont de quoi s'y perdre. Pas moins de 5 rassemblements sont prévus entre fin août et début septembre. Alors ça commence au Touquet. Chez Emmanuel Macron, c'est vrai, mais surtout chez Daniel Fasquel, député et ancien maire de la ville. C'est sans doute là que le plus de cadors du parti sont attendus. Mais attention, ils n'y seront pas tous. Il y a ceux qui éviteront sagement de se montrer, où que ce soit, et ceux qui ont préféré organiser leur propre événement. Le week-end suivant, les fillonistes se retrouveront donc à La Baule, les juppéistes à Arcachon, les soutiens de Laurent Wauquiez seront entre Lyon et le Massif Central. Et ce n'est pas fini, il reste, quelques jours plus tard, les journées d'été des constructifs à Nice, chez Christian Estrosi. Au milieu de tout ça, les Républicains, jeunes et moins jeunes, auront bien du mal à faire croire à une unité possible dans leur parti. Ces universités d'été, censées rebooster les équipes, risquent surtout de séparer encore un peu plus les différentes chapelles.
Inter 8h11, c'était il y a 2 ans, le 21 août 2015. Un homme ouvrait le feu à bord du Thalys entre Bruxelles et Paris.
Oui, maîtrisé par des militaires américains. Il était arrêté après avoir fait plusieurs blessés. L'enquête a rapidement permis d'identifier Ayoub El-Kazani, marocain, âgé de 25 ans à l'époque des faits, fiché S, signalé comme islamiste radical par les autorités espagnoles. On a longtemps cru à l'acte d'un loup solitaire, mais l'enquête a révélé qu'il s'agissait en fait d'une attaque coordonnée par l'État islamique. Charlotte Piret a eu accès aux auditions du suspect devant le juge d'instruction. Il était en lien très étroit avec les auteurs des attentats du 13 novembre.
Audition après audition, Ayoub El-Kazani raconte comment cet attentat a été préparé, en Syrie tout d'abord. Le jeune homme de 27 ans n'y passe que 6 jours, mais convainc l'État islamique de sa détermination djihadiste. Dans la perspective d'un attentat, il prend alors la route de l'Europe en compagnie du chef des commandos du 13 novembre, Abdelhamid Abaoud. Les deux hommes sont aidés dans leur périple par un troisième envoyé en éclaireur sur la route des migrants et qui les renseigne au fur et à mesure sur les points de passage. Tous les trois se retrouvent dans une planque à Bruxelles. Abdelhamid Abaoud va et vient jusqu'au jour où il annonce aux deux autres qu'ils doivent se préparer psychologiquement. Le jeune éclaireur prend peur et la fuite. Ayoub El-Kazani reste, attend les consignes. Des consignes particulièrement précises. Se rendre à la gare bruxelloise du midi, demander un billet pour le Thalys de 17h, voiture 12. Je devais y attaquer des Américains, raconte Ayoub El-Kazani au juge. La suite est connue, elle aurait pu être bien pire, car le scénario de Daesh qui prévoyait deux hommes équipés d'explosifs auxquels l'attaquant du Thalys a préféré des armes aurait pu avoir l'ampleur des attentats du 13 novembre.
Charlotte Piret, information détaillée à retrouver sur notre site franceinter.fr. Un festival Neymar hier soir pour les débuts du footballeur au Parc des Princes. Le PSG a balayé Toulouse 6 buts à 2, dont un doublé du Brésilien. Pierre Coquelin a vécu le match avec les supporters du prodige.
Dans les tribunes, on vient même de très loin pour voir la première de la petite pépite parisienne au Parc des Princes. Maillot du PSG sur le dos, Claudia accompagne son papa, Eider, qui a fait le voyage de Rio.
C'est important parce que c'est le premier match ici à Paris de Neymar.
Eider y va même de son pronostic.
Je pense que ça va être un match très bon. J'espère vraiment que Neymar va marquer quelques buts et faire des passes décisives et qu'aussi que le PSG va gagner. C'est un excellent joueur, Neymar. Depuis qu'il est tout petit, je pense qu'il va aider vraiment le PSG.
Et il ne faut pas longtemps pour que le petit cador brésilien exauce son compatriote. C'est lui qui égalise pour les joueurs de la capitale. Le début d'un récital. Le numéro 10 parisien est impliqué dans 5 des 6 buts du PSG. Match historique, match hystérique. Plus qu'un prince, un roi à Paris. Le stade entre en transe à chaque gris-gris du petit prodige brésilien.
Neymar nous a régalé parce qu'il a fait une prestation XL, on va dire même XXL.
Là, il est à la maison, il a prouvé.
Comme je l'ai plus de fois, je vais vous laisser crier.
Un speaker qui va devoir trouver un second souffle car nous n'en sommes qu'à la troisième journée du championnat et la saison promet d'être longue. Pierre Coquelin, France Bleu à Paris pour France Inter.
Et Paris prend la tête de la Ligue 1 devant Monaco et Saint-Étienne grâce à une meilleure différence de but. Après avoir bouleversé le Festival de Cannes où il a remporté le Grand Prix, 120 battements par minute arrive mercredi sur les écrans. Le film de Robin Campillo retrace le combat de l'association ACT UP dans les années 90. Alors que l'épidémie du sida décime la communauté homosexuelle, c'était avant l'arrivée des trithérapies. Eva Bétan.
La mort était leur horizon. Pourtant, c'est le film le plus vivant qui soit, parce qu'il transmet la griserie que procure la lutte. Le sida les tuait dans l'indifférence. Ils avaient en commun d'être jeunes, homosexuels et en colère. Ils ont inventé, avec ACT UP, une nouvelle forme de militantisme. Être compétent, tout savoir sur leur maladie. Se montrer, je suis malade et me voilà. Oser des actions d'éclat. Ils avaient de l'humour, ils étaient parfois déchirants et tellement intenses. Nahuel Pérez Biscayart irradie dans un des rôles principaux.
J'imagine qu'il y a des caractéristiques chez moi qui vont avec le personnage, donc c'est pour ça qu'il m'a choisi. Je peux me mettre en colère très facilement quand il y a des situations d'injustice. Et le film, il parle beaucoup de ça. C'est des jeunes qui se protègent quand les adultes de la société ne les protégeaient pas. Le pouvoir médical, le pouvoir politique faisait rien alors qu'ils mouraient. Ça me donne une envie de tout casser.
120 battements par minute est à la fois un grand film politique, un beau film intime, car en même temps qu'ils se battaient, ils aimaient et ils mouraient, et un film hors du commun. C'est à vif, ça ne triche pas, ça marche la tête droite, et c'est ce qui fait que malgré les larmes, ce film vous donne une énergie d'enfer.
120 battements par minute, un film France Inter, c'est à peu près votre rythme cardiaque ce matin,
oui.
N'est-ce pas Nicolas?
Non, ça va, on doit être à 70-80. Robin Campillo, le réalisateur, Elisabeth Lebovici sont en studio, on les retrouve dans quelques instants à 8h20 sur France Inter.